beaucoup de sujets de baseball dans l'actualité aujourd'hui, même si, ironiquement, il n'y a pas de match aujourd'hui dans le cadre des séries, puisque c'est reporté la rencontre entre les Astros et les Yankees à cause de la pluie. Les Astros mènent la série 2-1. Les Nationals ont remporté le championnat de la Ligue nationale hier. Et on apprend aujourd'hui que les Yankees et les Blue Jays vont venir disputer deux matchs préparatoires les 23 et 24 mars prochains. On a tous les ingrédients pour le début d'une bonne chronique sport business avec Ray Lalonde. Salut Ray!
Salut Mario!
Ray, la visite des Yankees, c'est important, c'est significatif. Ils étaient difficiles à tirer ici après plusieurs années où on a amené des clubs d'avoir les nouveaux Blue Jays autour de leurs jeunes vedettes montantes. Et les Yankees, il me semble qu'on a des bons ingrédients pour un succès de foule.
C'est sûr que c'est un succès pour l'organisation d'attirer les Yankees. Les Yankees sont comme le monument du baseball. Alors, il y a les Cowboys de Dallas, il y a les Yankees de New York. Et c'est la première fois dans cette espèce de série avant saison contre les Blue Jays.
Depuis 2014.
Ben oui, alors tu sais, c'est vraiment spécial d'avoir, surtout qu'ils ont un gros club, ils pourraient même être les champions défendants de la Série mondiale rendus au printemps prochain, Mario.
Est-ce que c'est important pour toi d'apprendre que le groupe de M. Bronfman, Baseball Montréal, est maintenant officiellement associé à Evenco dans la présentation de ces matchs-là, en collaboration bien sûr avec les Blue Jays qui pilotent le tout? Là.
Oui, ben, je pense que c'est important. Moi, je reviens à la récente visite des Raptors à Québec pour le camp d'entraînement. Lorsque les Blue Jays font des matchs comme ça, c'est une extension de la marque, du brand des Blue Jays. Les Blue Jays ont le privilège d'être l'équipe nationale du Canada. Jusqu'à preuve du contraire, là, comme les Raptors le sont. Alors, ils ont le marché canadien complet, Mario, à exploiter commercialement. C'est important pour eux autres de prendre possession de ce marché-là, d'en profiter, de vendre la marque, le produit des Blue Jays et de continuer à cultiver la prochaine génération de jeunes consommateurs de baseball. Que les expos reviennent ou non, là, ce que je veux dire par là, c'est que les Blue Jays sont pleins de jeunes prospects, de Biggio à Bichette à Vladimir Junior. Et ça va être une belle équipe à suivre dans quelques années, puis les spectateurs vont avoir l'occasion de les voir en bonne et due forme le printemps prochain au mois de mars.
Est-ce que ça t'annonce, toi, un rapprochement qui pourrait te donner lieu à d'autres collaborations entre les groupes Evenco, le Sandbell, Jeff Molson, le groupe Baseball Montréal, Steven Bronfman, les Alouettes? On pense que M. Bronfman serait actionnaire minoritaire avec Pierre Boivin, Claridge, on ne sait pas sous quel chapeau exactement, des Alouettes. Qu'est-ce que ça t'annonce pour le futur du sport professionnel à Montréal?
Je pense que c'est bien d'avoir un alignement des ressources comme ça. Tu sais, Evenco organise ces matchs-là avec leur division sport. Puis ça a été un succès assez impressionnant depuis le début, là. Mais là, on sait tous que M. Coderre, autrefois maire à Montréal, M. Bronfman avec sa famille puis ses liens avec le baseball, tous ces gens-là ont tous à cœur le succès et la réussite du baseball. Fait que quand il y a un projet baseball qu'on transforme en sport et divertissement, un événement annuel, eh bien, on veut que les gens se rassemblent autour de ça dans l'espoir, encore une fois, d'arriver un jour à avoir notre propre équipe. Alors, c'est toujours bon d'avoir toutes ces puissances alignées au même endroit.
Le baseball majeur joue-t-il un rôle, tu penses, dans l'idée de convaincre ces équipes-là de revenir? Est-ce que tu penses que d'une façon plus globale, là, les hautes instances, les autorités du baseball majeur ont intérêt à garder, stimuler les amateurs de baseball de Montréal ou ça n'a rien à voir? Jacques Aubé nous dit que lui, de son point de vue, ne voit pas ça. On va entendre l'entrevue réalisée avec lui tout à l'heure, Jacques Aubé d'Evenco, sans nier que peut-être que M. Bronfman a eu une influence positive. Toi, comment tu vois ça?
Moi, je pense que le baseball aurait avantage bientôt, Mario, à emmener des matchs de saison régulière. Parce qu'à un moment donné, les matchs avant saison, là, ça fait plusieurs années qu'on les voit, puis c'est bien cute, là, si tu me permets l'expression, mais c'est à la fin du camp d'entraînement. Les joueurs veulent que la saison débute. Les gens à Montréal, depuis quelques années, ça a eu un petit essoufflement parce qu'il y a moins d'enjeux. On est prêt, on a prouvé qu'on pouvait suivre le baseball à Montréal pour un week-end comme ça, mais l'an dernier, déjà, un des deux matchs avait lieu un lundi soir, si ma mémoire est bonne.
Et ça sera encore un lundi et un mardi. Mais,
sauf que là, l'avantage, c'est que les Yankees, c'est une équipe qui attire un peu plus, tu sais, que les Cards, que les Brewers, que les Reds.
Et les Blue Jays sont prêts à renaître, là. On sent leurs jeunes vedettes prêts à éclore.
D'accord.
Fait que donc, au plan baseball, il y a plus d'intérêt. Et si t'as à faire ça une dernière année en match préparatoire, ben là, t'as les deux bons clubs pour le faire.
T'as la bonne
là.
Formule pour y arriver.
Ouais. Maintenant, parmi les rumeurs, parce que je fais un peu de coq à l'âne autour de ces sujets-là, et quand on parle du futur stade de baseball, on entend dire et on a entendu dans le cadre des présentations face au comité de consultation, M. Bronfman, parler de matchs de football qui seraient disputés. On apprend via The Gazette que Claridge, on ne sait pas exactement comment, Pierre Boivin, Stephen Bronfman, la compagnie, serait actionnaire minoritaire des futures Alouettes. Et pourtant, on le sait parce que c'est prouvé ailleurs en Amérique, une combinaison équipe de football et équipe de baseball sur un même terrain, on n'en voit plus tellement. Il y en a encore, mais c'est pas un gros succès. C'est pas la recette souhaitée. Est-ce que tu penses qu'on s'en va dans la bonne direction?
Ben, tu sais, je veux pas être celui qui prétend avoir raison ou non. Ce que je peux te dire, c'est que la configuration d'un stade de baseball, ça fit pas les dimensions d'un stade de football. Alors, les Yankees sont partenaires dans New York City FC de la MLS, qui jouent leur match au Yankee Stadium. C'est loin d'être idéal pour un match de soccer sur un terrain de baseball avec un avant-champ, même si tu enlèves le monticule.
Mais si c'est bon pour les Yankees, on ne devrait pas s'en plaindre à Montréal?
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas idéal. Puis c'est peut-être parce que pour le moment, ils n'ont pas d'intérêt à construire un nouveau stade de soccer spécifique, là, MLS, pour NYCFC. Les Raiders d'Oakland et les A's d'Oakland partagent depuis des années le Oakland Alameda County Coliseum. C'est pas un succès de ça non plus. Et s'il y a une possibilité que les Raiders, ben, on sait que les Raiders déménagent à Vegas bientôt. Puis les A's sont en constant litige avec la ville d'Oakland puis le stade à savoir si eux-mêmes vont demeurer dans ce stade-là. Ça va pas bien parce que le football détruit les avant-champs de baseball. Puis un joueur de football n'aime pas partir du gazon jusqu'à la terre pendant un même match. C'est un peu compliqué. Alors, la configuration, la surface, ce sont des obstacles. C'est pas idéal comme scénario. Faut aussi savoir que le baseball majeur aime les surfaces en gazon. Et le soccer de la MLS aime aussi les surfaces en gazon. Gazon naturel, Mario. Le gazon artificiel synthétique, moins populaire au baseball. Si ma mémoire est bonne, là, je pense que le Rogers Center à Toronto des Blue Jays, c'est un des derniers stades de baseball avec ce qu'on appelle un turf.
Mm-hmm.
Pourquoi? C'est dur pour les jambes, c'est dur physiquement pour les joueurs, puis les joueurs se plaignent.
On se souvient de Andre Dawson et ses genoux sur la surface synthétique du stade olympique.
Très bon exemple. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un toit ouvert, tu peux avoir un gazon naturel. Si tu as un gazon naturel, c'est plus difficile à maintenir, puis surtout d'avoir un deuxième sport qui jouerait dessus. Si tu as un toit fermé, tu peux avoir un terrain synthétique, mais on vient de dire que le terrain synthétique, c'est pas vraiment une préférence pour la MLS ou pour le baseball majeur. Fait que finalement, c'est compliqué ce dossier-là au niveau des stades.
Je t'avoue, Ray, permets-moi de te partager un état d'âme par rapport au projet du retour du baseball à Montréal. Plus j'apprends des informations sur la démarche du groupe de M. Bronfman, on dirait plus j'ai des doutes sur leur réelle volonté de ramener puis de s'engager au niveau voulu, souhaité et incontournable pour que ça soit un succès. Quand on parle d'équipe à garde partagée, tu sais, je demeure ouvert, là. Je fais juste partager une opinion. Pas de toi, OK, c'est correct, on va jouer des matchs en Floride. J'ai l'impression qu'on est prêt à tourner beaucoup de coins ronds pour s'assurer qu'il y ait de l'activité au milieu d'un méga projet où on va faire pas mal de millions de profits avec des tours à condo, tout ça. Et là, je me demande, c'est quoi la priorité? C'est de bâtir de quoi autour d'un terrain de golf, mettons que là, qui est une équipe de baseball ou un stade de baseball, ou c'est d'avoir une équipe de baseball. Parce que si le projet, c'est un leurre pour faire de l'argent avec le reste, hey, je suis pour le capitalisme, Ray. Il n'y a pas de problème des hommes d'affaires à Montréal amenant des projets. Sauf que, utilisez-moi pas avec une demi-équipe pour motiver le reste.
Mais t'as bien décrit la situation, Mario, parce que moi, la façon dont je vois le sport, c'est que si t'es un investisseur avec beaucoup d'argent, puis les moyens, puis les ressources, puis les partenaires dans l'équation, puis tu veux une équipe, puis tu y tiens, tout s'achète, Mario. Il y a un prix, mais il y a un chèque à écrire, mais avec détermination puis persévérance, puis je suis pas en train de donner des leçons à personne, mais je peux te dire qu'au fil de 33 ans d'expérience, c'est assez clair, signe un chèque en blanc, là, paye le montant, puis un commissaire qui va te donner un club. Signe le bon montant puis tu mets le nombre de zéros appropriés sur le chèque, c'est sûr que tu vas avoir ton club.
C'est quoi le montant selon toi?
Ben, un montant pour une équipe de baseball, stade inclus, installation en Floride pour la Ligue des Pamplemousses puis une masse salariale de 125 millions qui est modeste, ben c'est un 3 milliards de dollars canadiens. C'est sûr. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si on est prêt à signer puis on le veut puis on croit dans notre projet, let's go. Parce que moi, garde partagée, là, 41-41, là, tu viens de le souligner, on dirait qu'ils pas tout à fait sûr de leur coup. Pas tout à fait sûr que le projet va marcher. Puis c'est loin d'être accepté dans l'autre marché.
M'en aller plus
ça
loin que ça.
Ça s'appelle Tampa Bay, là,
Ray,
en passant.
Je sais pas ce que tu vas en penser, justement. tu sais, dans le fond, peut-être que ça sera pas assez parce qu'une équipe de football là, joue grosso modo entre 9 et 11 matchs. Tu t'en vas, si tu joues à Coupe Grey, là, mettons maximum 12, là, je vais vite là-dessus. T'sais, si on n'a pas les moyens de ramener une équipe de baseball, puis on n'a pas la volonté de le faire, puis on a besoin d'un prétexte pour bâtir un développement commercial, intéressant, résidentiel, mais peut-être que c'est un stade de football qu'il faut construire là, à 200, 220 millions, puis des Alouettes ont un nouveau domicile.
Et peut-être combiné avec l'Impact, tu comprends-tu?
Ouais, mais ça, c'est une autre hypothèse de travail, très certainement. Mais j'ai l'impression que, dans le fond, compte tenu, j'entends parler qu'ils voudraient accueillir des matchs de Coupe du monde de soccer, donc ils sont prêts à aller dans beaucoup de directions. Puis, dans le fond, on n'a jamais eu du stade de baseball. Et là, j'ai l'impression qu'on a un groupe qui est prêt à faire pas mal de compromis. Presque trop à mon goût,
finalement. C'est le stade olympique, Mario, quand il avait été
bâti. On veut
bâti,
un stade
là.
De baseball, ben ouais, si c'est une équipe de baseball.
Le stade olympique bâti en 76 pour les Jeux olympiques avait la capacité d'être flexible. Ouais. Adaptable. Les gradins se déplaçaient vers le centre de la ligne de 50 pour accueillir les Alouettes. Mais moi aussi, j'entends ça depuis des années. Un beau stade de baseball dans le plein centre-ville de Montréal pour les matchs en juin puis en juillet. Ouais, OK, mais là, si on veut être multifonction, ça veut dire que c'est un stade qui est adaptable, c'est bon pour le volume puis l'occupation, sauf que c'est pas tout à fait un stade de baseball. À la fin, encore une fois, ça, c'est pas mon argent, là. Mais je te dis que si moi, j'avais de l'argent à investir, puis j'y tiendrais à mon club de baseball, signe le chèque, passe à autre chose, donne-moi le club, puis laisse-moi m'arranger avec le succès de ce club-là. C'est ce que je ferais. Ça, c'est mon opinion, encore une fois, puis c'est facile pour moi de parler comme ça, mais ben c'est oui. Comme ça que je verrais les choses.
Et c'est le luxe qu'on a de le faire à la radio, mais j'ai très hâte de voir si jamais on trouvait une solution du côté de Tampa Bay, si on va poursuivre le projet du retour du baseball avec autant d'enthousiasme, sachant qu'à ce moment-là, la seule hypothèse vraisemblable serait une expansion, en tout cas, à moins qu'une équipe se retrouve en difficulté.
Parce que, tu sais, Tampa Bay n'a pas abandonné l'idée de se construire un nouveau stade et de vivre et d'accepter d'être à temps plein à Tampa. Ce qui donnerait forcément la seule alternative, c'est une équipe d'expansion à Montréal. Mais une garde partagée, là. Imagine le fan à Tampa, le fan à Montréal. Alors, Montréal finit avec les séries parce qu'ils commencent leur saison en juillet, août, septembre, puis Tampa a toujours avril, mai, juin. Fait que là, eux ratent les séries, puis les Rays, cette année, avaient un bon club. Il y avait 30 000 personnes ou plus là, lors des séries. Ils ont un club avec du potentiel pour l'avenir.
Et les cotes d'écoute télé en Floride ne sont pas méchantes pour les Rays. Mais les gens se déplacent
d'ailleurs,
pas
d'ailleurs, les cotes d'écoute au baseball majeur cette année, MLB on Fox, 8 % à la hausse, ESPN 2 % à la hausse, puis TBS 10 % à la hausse. Fait que pendant que des hausses de cotes d'écoute à la télé sur les écrans, Mario, sur les écrans mobiles, au niveau numérique, ben l'assistance dans le baseball majeur en baisse cette année de 1,7%, mais 6 des 7 dernières saisons, c'est en baisse. Puis depuis 2007, 14% de baisse. Il y a de moins en moins de gens qui vont au baseball. Alors, est-ce que c'est ça la crainte d'avoir trop de matchs? Parce qu'effectivement, Mario, il y a trop de matchs dans le baseball majeur.
Il y a un effet de dilution.
81 matchs à un moment donné. Mais ben oui, tu peux pas jouer. Alors, peut-être qu'on devrait suggérer d'en jouer moins. Parce qu'une formule peut-être à 120 matchs, Mario.
Est-ce que le syndicat des joueurs accepterait ça? Puis je pense que c'est la voie de l'avenir, mais il va y avoir des obstacles sur la route de la persuasion de tous les groupes impliqués.
Tu as raison, absolument. Parce que tout le monde va s'objecter en se disant tout, ben on va perdre de l'argent, on va en faire moins. OK? Mais peut-être que si tu en jouais 120, ça veut dire 60 à domicile au lieu de 80. Tu vas me dire, c'est 25 % de moins de matchs. Sauf que plus de rareté, plus de meilleurs matchs, moins longue saison, série commence un peu plus tôt, tu contrôles la météo en début puis à la fin de l'année.
Il y a un paquet d'avantages.
Plus de volume dans les gradins, charge un peu plus cher, va rechercher ton argent de ce côté-là. C'est juste des formules d'optimisation au niveau des revenus. À la fin, là, c'est un partage des revenus dans le baseball. Les grosses équipes comme les Phillies, qui étaient en hausse cette année de 26 %, les Dodgers, qui ont eu les plus grosses foules de l'histoire des Dodgers, les Yankees, ça attire plein de monde. Ils partagent déjà l'argent avec les équipes plus faibles. Ce que ça veut dire, Mario, c'est que ça sera encore plus plein dans ces stades-là. Et peut-être qu'on pourrait s'en tirer avec moins de matchs, ce qui permettra au baseball de se moderniser, de se rajeunir et d'accueillir une clientèle plus jeune, qui n'a pas la patience de toffer, excuse-moi l'expression, tout l'été et 162 games. Je suis obligé de constater ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, là, tu vas y arriver à faire des changements dans le baseball sur l'horizon, si on veut, la nomenclature là, du baseball, là, ça va devoir changer.
Ils n'auront pas le choix. Ça a plein de bon sens que ces idées, que ces hypothèses de travail-là, ça va prendre du temps avant d'y arriver, mais je pense qu'à un moment donné, ça c'est.
Ouais, puis tu sais, on est avec des séries mondiales, puis c'est le moment de l'année où on est le plus rivé sur la télé puis sur les matchs. C'est excitant au possible, mais des fois, il faut reculer un peu puis se poser les vraies questions.
C'était la chronique Sport Business où on entend parler des grands enjeux ici avant tout le monde. Merci beaucoup, Ray.
Salut,
qu'on peut suivre, bien sûr, sur Twitter à @RealRayLalonde. Bien sûr, merci beaucoup, Ray. Dans un instant, il faisait partie du 11 partant et du 11 qui a complété la victoire historique du Canada contre les Américains hier au soccer. Samuel Piette est notre invité après la pause.